J'aimerais partager avec vous une lecture. Nous allons faire une lecture dans le livre des Actes au chapitre 4. Actes chapitre 4 à partir du verset 1. Actes chapitre 4 à partir du verset 1. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui, c'est Choisir de rester confiant. C'est un choix. C'est un choix qui nous revient de manière personnelle de rester confiant parce qu'il y a bien des situations, des circonstances qui pourraient nous amener à prendre le chemin de la crainte, de la peur, du renfermement. Mais Dieu nous invite à rester confiant. Il dit le texte, tandis qu'il parlait au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens. Excédés de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils portèrent les mains sur eux et les mirent sous bonne garde jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5 000. Le lendemain, leurs chefs ainsi que les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec le souverain sacrificateur Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille des principaux sacrificateurs. Ils firent comparaître au milieu d'eux Pierre et Jean et demandèrent par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, leur dit, chef du peuple et anciens, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été guéri, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. Celui, la pierre rejetée par vous, les bâtisseurs, est devenu la pierre principale, celle de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens du peuple, sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais en voyant debout auprès d'eux l'homme guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Il leur ordonna de sortir du Sanhédrin et délibérer entre eux et dire: que ferons-nous à ces hommes? Car ils manifestent pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle notoire a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que cela ne se diffuse pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Alors ils les appelèrent et leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: est-il juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu? À vous d'en juger, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent sans trouver le moyen de les punir à cause du peuple. Tous, en effet, glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé, car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent: « Maître, toi qui as fait le ciel et la terre, et tout ce qui se trouve, c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint, de la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi les nations se sont-elles agitées? Et les peuples ont-ils eu de vaines pensées? Les rois de la terre se sont dressés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. et tends ta main, pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. En lisant ce texte, nous sommes dans la réflexion de quels sont les choix que Dieu attend de nous. De quelle manière Dieu désire que nous puissions, nous, avancer malgré tout ce que nous pouvons entendre. Nous voyons de quelle manière aujourd'hui, peut-être, l'Évangile fait peur. On a entendu dans les informations, il y a environ, si je n'ai pas mal enregistré dans ma mémoire, une église qui naît tous les 9 jours. Pour nous, c'est une bonne nouvelle. Même si moi, j'aimerais qu'il y en ait une tous les jours. Ça serait magnifique, n'est-ce pas ? Mais on peut comprendre que dans le monde qui aujourd'hui s'oppose à Dieu, cette croissance spirituelle, cette croissance et cette conversion d'âme à Christ, parce que ce n'est pas tellement les lieux de culte, c'est les cœurs qui se tournent vers le Seigneur, peut créer un certain nombre de questions. Et on peut bien imaginer que du temps des disciples, du temps des apôtres, cette parole qui était annoncée dans le nom de Jésus-Christ avait causé pour ceux qui s'étaient installés dans un mode et un fonctionnement religieux de la peur. Le texte nous dit que Hérode s'était mis d'accord avec Ponce Pilate. On est avec deux peuples qui normalement étaient opposés, puisque l'un avait pris domination sur l'autre. Et là, étonnamment, les deux se sont mis d'accord. Ils étaient d'un commun accord, comme quoi, parfois, il peut y avoir des sujets où, entre guillemets, les pires ennemis deviennent alliés. Mais en lisant ce texte, moi, ce qui mon courage, c'est le courage des disciples, parce que malgré la situation, eux, ils savent que leur mandat, c'est celui qu'ils ont reçu par le Seigneur, Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Et nous pouvons le lire, Matthieu 28, versets 19 et 20, qu'il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseigne-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Et combien c'est encourageant de savoir que nous avons le Seigneur avec nous jusqu'à la fin du monde, n'est-ce pas ? C'est une promesse, ce n'est pas des paroles. C'est une promesse que Dieu tient et maintient. Elle était véritable pour les disciples, elle était véritable pour les apôtres, elle est véritable pour l'Église d'aujourd'hui. Malgré que 2000 ans, voire plus, se sont passés, Dieu demeure toujours le même et sa parole reste véritable. C'est sur quelque chose sur lequel nous pouvons nous appuyer. Et dit le texte que malgré la situation particulière, malgré les émeutes que ça pouvait produire, de voir un miracle. On connaît ce texte, cet homme, il se trouvait là, il tendait la main, il attendait qu'on lui donne une petite pièce. Il n'avait pas le chômage, il n'avait pas la sécu, il n'avait rien du tout. Cet homme, il était obligé, malgré son handicap, s'il voulait vivre, de tendre la main et d'espérer un geste de compassion de quelqu'un qui se rendait au temple, qui aussi, pour obéir à Dieu, devait faire preuve aussi, oui, d'amour et de pitié pour quelqu'un qui était dans la souffrance. Et là, il voit deux disciples, ils arrivent et il se dit, ah ben eux, vu le sourire qu'ils ont parce qu'ils vont au temple, ils vont forcément me donner quelque chose de bon. Peut-être ils s'attendaient une pièce d'or. Et bon, s'ils n'ont pas de l'or, je prends de l'argent. C'est pas grave, non ? Si ce n'est pas les billets de 100, même un billet de 50, ça va. Manque de peau, ils lui disent, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Waouh ! La guérison n'a pas de prix. Cet homme, dit la parole de Dieu, se leva et rentra dans le temple en louant Dieu, en sautant, en se réjouissant, parce que quand même, après 40 ans de souffrance, Et moi, je me dis, après 40 ans, quand même, il faut le faire de prendre et de courir après 40 ans, vous n'avez jamais bougé vos jambes. Pas seulement Dieu l'a relevé, mais Dieu lui a donné tous les muscles qu'il fallait. Prenez quelqu'un qui reste bloqué une semaine, 15 jours au lit, vous pouvez lui dire cours, il va vous dire cours tout seul. Je ne peux pas. Ma tête dit oui, mais mon corps, il ne suit pas. Et là, cet homme, c'est pas sa tête, c'est son corps qui explose de joie face à la bonté, à la miséricorde de Dieu. Et là, il y a quelque chose qui se produit ici. Il y en a un qui est heureux et le peuple qui voit quelque chose d'éclatant. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui n'aime pas l'œuvre de Dieu et qui s'oppose. Alors les disciples se retrouvent, puisqu'il était tard dans la journée. J'imagine le temps qui s'est écoulé après ce miracle. Qu'est-ce qui s'est passé dans la ville? C'est arrivé le soir, ils ne pouvaient plus rester comme ça. Peut-être qu'ils avaient même le couvre-feu, j'en sais rien. 18 heures, hop, tout le monde à la maison. Et les disciples en prison. Et le jour d'après, ils se retrouvent après 6 heures. Il faut respecter le couvre-feu. C'est important. Et là, ils se retrouvent et on les amène pour qu'ils soient jugés. Mais le texte nous dit que malgré tout ça, et moi je bénis le Seigneur pour cette action d'évangélisation, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Parce que vous savez, la parole de Dieu trouve toujours le chemin dans le cœur de celui qui cherche Dieu vraiment. Peu importe le brouhaha qu'il peut y avoir. Et là, il dit, et le nombre des hommes s'éleva environ à 5 000. Alors si on ajoute les femmes, si on ajoute les enfants, le chiffre augmente. Bon, une nuit au frais ou au chaud, comme on veut, reste le fait que le jour d'après, ils vont être amenés à se retrouver devant les responsables. Alors il est question pour nous de retenir quelques mots. Il dit au verset 8, alors Pierre rempli d'Esprit Saint. Pierre ne va pas s'expliquer avec ses propres mots, il ne va pas chercher des explications humaines et personnelles, il va faire recours au Saint-Esprit. Et quelle qu'il soit l'occasion qui nous est donnée de témoigner, cherchons à le faire sous la conduite du Saint-Esprit. De quoi y parlera Paul? De quoi y parlera Pierre? De quoi y parlera chacun des disciples? Pas d'eux-mêmes. Ils parleront de qui? Faisons attention à ne pas changer le témoignage en une occasion pour parler de nous. Certes, Dieu nous a fait vivre quelque chose, mais celui qui change les vies, c'est Jésus. Et d'ailleurs, ils vont saisir l'occasion, et à tel point que le texte nous dit au verset 13, regardez bien, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils se rendaient compte que c'était des gens du peuple sans instruction. Waouh! Pierre ne savait ni lire ni écrire. Mais quand il prêchait, ce n'était pas la connaissance humaine qui parlait, c'était le Saint-Esprit. La preuve en est que Dieu ne cherche pas et Dieu ne rejette pas ceux qui ont une certaine culture. Mais ce n'est pas la culture qui va faire de nous des bons témoins. C'est notre relation personnelle avec Dieu. Et le texte nous parle toujours de Pierre et de Jean. Les deux étaient d'un commun accord. Les deux étaient dans la même situation. Et si je prends les deux disciples, ça me vient comme ça. Je vois Pierre et Jean, deux caractères complètement différents. Êtes-vous d'accord avec moi? Pierre, c'était, excusez-moi, l'énergumène, toujours prêt à dire quelque chose. Peut-être qu'il parlait plus vite qu'il réfléchissait. Et Jean, c'était l'apôtre de l'amour, mais qui était aussi capable de se mettre en colère. Parce que je vous rappelle qu'il y a un moment, il dit au Seigneur, est-ce qu'on va faire descendre les foudres du ciel? Donc là, on se trouve quand même avec une sauce bien pimentée. Et là, les deux, ils se laissent diriger par le Saint-Esprit. Laissons Dieu prendre le dessus sur notre caractère. Laissons Dieu transformer notre vie pour que nous puissions être des témoins efficaces. Et alors, on voit que la discussion continue et ils n'ont rien trouvé à redire parce qu'ils avaient devant eux le témoignage vivant de ce que le nom de Jésus peut produire dans le cœur d'un homme. Cet homme guéri était là. Et cet homme, après avoir vécu cette guérison, il aurait pu partir chez lui content. Il aurait, excusez-moi, pu partir faire la fête et se dire finalement je suis guéri. Mais non, il s'est attaché à Christ et il s'est attaché à tout ce que Christ comporte. Quand nous avons donné notre vie au Seigneur, est-ce que nous nous sommes attachés à Christ? Ou est-ce qu'on s'est contenté de prendre le miracle, la guérison, la délivrance, la joie, la paix? Et après quoi on dit, ben, maintenant j'ai ce que j'avais besoin et je rentre chez moi et je vis ma vie. Non, cet homme s'est attaché à Christ et il demeure là, même sans parler. Sa présence parle de ce que Christ est capable de faire. Alors ça veut dire que nous parlions ou que nous restions en silence, que nous puissions chacun d'entre nous être un témoignage vivant de l'action puissante de Jésus-Christ. Amen. Merveilleux. Et je continue parce que l'histoire elle continue. Pierre et Jean, ils se trouvent face à la question parce que les religieux, ils sont énervés, ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus. On parle de Jésus de tous les côtés. Il y a des miracles, ils ne trouvent pas quoi faire, ils ne trouvent pas comment dire. Ils disent, bah, maintenant, on va les menacer. Parfois, on a l'impression que les menaces reviennent. De temps en temps, on les entend. Lui, tantôt, c'était comme ça. Maintenant, ça peut être par les réseaux, parfois par d'autres moyens. Et la réponse de Pierre et de Jean, et vous voyez encore une fois, Pierre et Jean leur répondirent. Hein? Combien c'est important d'avoir une réponse qui est commune, qui est sensée, qui est juste, qui est précise. Ils leur dirent, il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. À vous d'en juger. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Un témoin, s'il ne dit pas la vérité, il y a un problème, non ? Et là, il est question pour les disciples de prendre position et ils prennent position. Et quand j'ai dit que le thème du message, c'est choisir de rester confiant, c'est parce que la position qu'ils prennent n'est pas celle que les religieux auraient voulu entendre. Parfois, le monde voudrait entendre de notre part des décisions qui font qu'on accepte de se taire, on accepte de ne rien faire, on accepte de mettre notre foi de côté parce que on nous a menacés. Pierre et Jean, ils disent, ben, jugez-vous, car nous ne pouvons pas, que Dieu fasse que nous ne trouvons jamais le moyen de nous taire. Excusez-moi de dire ça. Et que parfois, on peut dire, le pasteur parle beaucoup, hein? Mais je crois qu'il est question pour nous de ne pas nous taire quant à la bonté, à la miséricorde, à la grâce, à la fidélité de Dieu, parce qu'il est toujours le même. Alors suite à ça, ben, ils sont obligés de les libérer, ils ne peuvent rien faire, hein, parce que quand même, il y a un homme qui vient d'être guéri, 40 ans, le peuple, si quelqu'un touchait en ce moment-là à Pierre et à Jean, il y aurait eu une émeute, on est d'accord. Qu'est-ce qu'ils font Pierre et Jean? Où est-ce qu'ils vont Pierre et Jean? Ils ne rentrent pas à la maison en se disant, après la nuit fatigante qu'on a eue, après les moments qu'on a vécu, on va fêter ça. Une super occasion d'évangélisation, plus que 5000 hommes qui ont été guéris et on n'a pas pris une baffe. Non, il dit la parole de Dieu qu'après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs pour leur raconter tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et là, j'attire votre attention sur l'attitude de l'Église, parce que c'est vers l'Église qu'ils sont allés. On est d'accord? D'accord? Lorsqu'ils eurent entendu d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu. Trois choses. Première chose, entendre. Prêter attention et user de discernement. Parce que si on manque de discernement, on peut rentrer dans un combat qui n'est pas celui que Dieu nous demande d'avoir. Et la parole de Dieu nous dit que notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre les hommes, ce n'est pas contre les autorités, ce n'est pas contre les gouvernements, loin de loi. Mais notre combat, c'est un combat spirituel. Et si on n'a pas de discernement, on risque de se tromper de cible. Deuxième chose, il reste uni, l'unité est un principe fondamental. Jésus dira, soyez un comme moi et le Père, nous sommes un. Et d'ailleurs, pourquoi la première église, l'église primitive, elle était dans cette croissance exponentielle incroyable? Qu'est-ce qui faisait que l'église, elle grandissait? Ils étaient ensemble, ils étaient dans la paix, ils prenaient soin les uns des autres, ils partageaient pas seulement le pain et le vin, mais ils partageaient tout, n'est-ce pas? Et cette unité, et voilà, l'enseignement, la prière, c'était une église vivante. Alors je me dis que parfois il y a besoin que le peuple de Dieu connaisse des épreuves pour revenir aux sources et retrouver sa fonction pleine d'une église vivante, n'est-ce pas? Le monde ne peut faire rien de plus que ce que Dieu a déterminé d'avance et pour lequel il a déjà tout prévu. D'ailleurs, il nous dit le texte, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Est-ce qu'il y a quelque chose qui échappe au contrôle de Dieu? Donc je peux rester confiant. Que peuvent-ils me faire les hommes? Si Dieu est avec nous, qui sera? Amen. Et c'est dans cette attitude de cœur que Pierre, Jean et tout le peuple, ils se retrouvent, ils disent, mais Seigneur, toi tu as prévu tout d'avance. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de prier, la preuve c'est qu'ils prient. Mais comment ils prient? De quelle manière ils prient? Lisons juste la prière et après nous on va prier. Après avoir exprimé et avoir dit, on sait qui tu es, ô Éternel, tu es celui qui a créé le ciel, la terre, tout a été accompli, tu as mis ton onction sur Jésus. Ils disent, mais et maintenant, à partir du verset 29, et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Tu entends leurs mots, Seigneur? Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Qui veut annoncer la parole du Seigneur en toute assurance? Oui? Ben, il faut déjà que la paix, qu'on fasse le choix de la paix dans notre cœur. Il faut qu'on fasse ce choix de rester confiant en Dieu, peu importe les circonstances. Alors donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Et deuxièmement, étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Alléluia. Ça fait depuis combien d'années qu'on prie pour que le Seigneur fasse des miracles? Moi, je crois que j'étais encore au biberon, j'entendais déjà prier comme ça. Et je n'ai vu des miracles. Mais je crois que Dieu n'a pas changé, qui veut les faire encore aujourd'hui. Mais vous savez, Dieu ne fait pas des miracles juste pour nous donner, excusez-moi, quelque chose à raconter. Dieu ne fait pas des miracles pour nous contenter. Non, Dieu fait des miracles pour faire éclater sa gloire. Amen. Mais éclater sa gloire, ça veut dire aussi qu'on se trouve avec lui aussi dans des temps de combat. Est-ce que Dieu ne savait pas ce qui allait se produire avec cette parole de Pierre qui dit à cet homme, je n'ai ni or ni argent? Peut-être quelqu'un aurait dû se dire, mais Pierre, tu aurais dû te taire. Je ne sais pas, va au temple, prie 10 minutes de plus. Et Pierre, il ne peut pas. De la même manière que nous aussi, on ne peut pas. Non? Chaque occasion, elle est bonne pour témoigner du Seigneur, non? Vous êtes à la caisse, vous attendez, et quelqu'un vous donne un titre, et hop là, c'est parti. Et on commence de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. En 5 minutes, top chrono. Et si tu n'as pas compris, viens au culte. Tiens la carte, tiens le Nouveau Testament, tiens l'Évangile. Alléluia. C'est magnifique ça, non? Que Dieu nous donne d'être comme ça. Vous savez, j'analysais que la première église avait reçu ce mandat et Dieu lui a dit « Allez ». Mais ils ont commis peut-être une erreur de stratégie au départ, c'est qu'il y a eu des conversions et ils sont tous restés à Jérusalem. S'il n'y avait pas eu une persécution, le peuple ne se serait pas éparpillé pour aller. Puisque le but de Dieu, c'est Jérusalem, la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Et si le Seigneur était en train à nouveau de dire à l'Église, sortez de vos murs. Et si le Seigneur était en train de dire à chacun d'entre nous, il n'y a pas des professionnels de l'évangélisation. Vous êtes tous appelés évangélisés. Oui, mais Seigneur, je n'ai pas fait d'études. Pierre non plus. Oui, mais Seigneur, moi je suis trop amour, je suis trop gentil. Jean aussi. Oui, mais Seigneur, je ne trouve pas les mots. Celui qui a été guéri, lui non plus. Mais il était un témoignage vivant. Est-ce qu'on a des excuses pour ne pas témoigner? On peut en chercher, hein. Mais est-ce que Dieu peut les recevoir? Et il dit le texte, et moi j'appelle ça le cercle vertueux. Je vous explique. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous, verset 31, remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le cercle vertueux. Ça veut dire qu'au départ, tout commence à cause de la prédication. On est d'accord. Ils avaient déjà été baptisés du Saint-Esprit à la Pentecôte. Comment ça se fait que le texte il nous dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit? Moi, je crois que l'Église a été renouvelée et elle a été reboostée. Ça veut dire qu'on a besoin pas seulement de recevoir le Saint-Esprit et d'entretenir notre vie spirituelle, mais on a besoin aussi de dire, Seigneur, renouvelle en moi la vie de l'Esprit. Seigneur, si la situation a créé en moi quelconque forme de peur, je te prie, balaye la peur, Seigneur. Et le texte nous dit que ce cercle vertueux, moi je l'appelle comme ça, c'est parce que tout a commencé par la prédication et ils sont repartis annoncer la parole de Dieu avec assurance. Donc qu'est-ce qui va se produire puisqu'ils prêchent? Il va y avoir des miracles. Ils vont être mis en prison. Dieu va les délivrer. Ils vont prier. Ils vont être renouvelés de l'esprit et ils vont recommencer à prêcher. Faisons partie de ce cercle vertueux et que Dieu nous donne de le vivre pleinement. Alors on a des sujets de prière, on va les partager ensemble. Mais je prie aussi que le Seigneur fasse de tous ces sujets des miracles. Des miracles. Des miracles. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Seigneur, je ne sais pas si ce jour-là, Pierre et Jean, en se levant, ils pouvaient imaginer ce qui allait se produire. Mais une chose est certaine, leur cœur était prêt à vivre ce que tu avais préparé et établi pour cette journée. Seigneur, leur cœur était attentif et ils ont répondu présent à l'appel. Donne-nous de faire de même. Et si, Seigneur, sur le devant, il y avait Pierre et Jean, l'Église était dans la prière parce qu'elle avait compris, elle avait saisi les enjeux spirituels qu'il y avait, Seigneur, et l'importance que ça a la prière, Seigneur. Si Pierre et Jean ont été sortis de cette situation, c'est parce que le Saint-Esprit est intervenu. Seigneur, toute victoire est remportée quand le peuple de Dieu crie à toi. Seigneur, tout miracle est accompli quand, Seigneur, la foi de l'Église, elle est active, elle est unie, Seigneur. Seigneur, de la même manière que l'Église primitive a pu prier en demandant de donner, Seigneur, courage, de l'hardiesse, diront certaines traductions. Alors, Seigneur, donne-nous de l'hardiesse, s'il te plaît. Remplis-nous du Saint-Esprit, à nouveau, Seigneur. Embrase nos cœurs pour que nous puissions, nous aussi, Seigneur, annoncer ta parole avec courage, Seigneur, avec force. Seigneur, accomplis des miracles.